Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment le plastique est-il source de multiples formes de pollution pour l'océan ? Avec Valentin Detling.
Comment est-ce possible, si nous trions scrupuleusement nos déchets dans les poubelles jaunes comme on nous l'a appris, que de telles quantités de plastique se retrouvent dans l'océan au point de former des continents mortifères pour la biodiversité ? Valentin Detling, doctorant au Muséum National d'Histoire Naturelle, va nous éclairer sur ce désastre écologique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelques chiffres pour commencer. 3,5 millions de kilomètres. 6 fois la taille de la France. Une zone d'accumulation massive de plastique qui a été découverte en 1997 par l'océanographe Charles Moore et qu'il a rebaptisé le 7e continent. Donc tout simplement, comment un tel amas de plastique a-t-il pu se former ?
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, depuis que le plastique a commencé à être utilisé dans notre vie quotidienne, on a produit environ 460 millions de tonnes, et la plus grande partie, on ne s'en sert plus à l'heure actuelle, donc il y a une très grande majorité, environ 75%, on estime, qui se retrouve sous forme de déchets. Si on ne retrouvait pas ces déchets dans l'environnement, ça pourrait aller, mais en fait le problème, c'est qu'on a des capacités de recyclage qui sont limitées par rapport à cette montagne colossale de déchets qu'on a créée. On a des capacités de recyclage limitées, et également, on a des capacités de récolte de ces déchets qui sont limitées, et aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a environ seulement 15% de ces déchets qui sont collectés pour le recyclage. Et donc, dans ces 15%, il y en a seulement 9% qui vont être effectivement recyclés. Donc ça, c'est la partie pour le recyclage. Et ensuite, on a environ 60% qui finissent incinérés. Et finalement, il y a 20% qui ne sont pas collectés ou bien alors qui sont mal gérés. Et donc du coup, quand les déchets sont mal gérés, ils peuvent se retrouver soit dans les décharges à ciel ouvert et donc par le biais du vent et des rivières par la suite, se retrouver dans les fleuves, puis ensuite ces fleuves vont atterrir dans l'océan. Et ensuite, il y a des courants océaniques, et donc ces courants océaniques vont les amener à des endroits différents de leur point de création.
Pourquoi cette concentration ? Pourquoi est-ce que ça forme un continent ? Pourquoi est-ce que les plastiques français ne sont-ils pas juste à côté des rivages océaniques français, les plastiques américains au large de leur propre côte et ainsi de suite sur toute la planète ?
Eh bien, en fait, c'est parce que les courants ne sont pas isolés les uns des autres. On a des gyres qui sont des courants qui convergent au même point et qui, en fait, vont amener tous ces déchets au même endroit. Donc, il y a plusieurs gyres sur la planète, donc ce qu'on appelle des gyres océaniques, qui vont concentrer ces déchets. C'est ça qui fabrique les continents de plastique. Donc, Charles Moore a donné le nom de 7e continent, mais on estime aujourd'hui qu'il y en a même plusieurs sur la planète qui se sont formés. Après, on a donc ces gyres qui ramènent au même endroit ces plastiques. Et d'autre part, tous les courants ne convergent pas. Et certains amènent parfois les déchets à des milliers de kilomètres de leur lieu de production. Par exemple, dans le Pacifique, il y a l'île Henderson, qui est une île complètement vierge d'habitation humaine. Et pourtant, on retrouve chaque année des dizaines et des dizaines de kilos de déchets plastiques sur cette île. Ce qui montre bien, en fait, que les courants océaniques peuvent amener jusqu'à très loin les déchets et qu'il ne s'agit pas d'un problème qui est seulement local, mais qui est un problème qui est partagé sur toute la planète.
J'ai donné quelques chiffres pour commencer cet épisode, parce qu'il y a les plastiques qu'on peut facilement voir, comme Charles Moore l'a découvert, mais il y a aussi les invisibles, et ceux-là, ils sont non seulement beaucoup plus nombreux, mais également beaucoup plus dangereux. Pourquoi ça, hein ?
Donc tout d'abord, un plastique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un polymère, donc c'est-à-dire que c'est une sorte de grosse brique qui est composée de plein de briques plus petites, et quand on l'assemble, ça forme ce qu'on appelle un polymère. Donc, ces polymères, il en existe des dizaines et des dizaines de sortes. Et donc, quand ils arrivent dans l'océan, ils sont sous forme de macro-déchets. Donc, c'est par exemple le pot de yaourt, le sachet en plastique, qui peuvent être dangereux. Parce que les animaux, par exemple, peuvent les manger, s'étouffer avec. Ensuite, ce qu'on appelle les plastiques invisibles, des microplastiques, voire des nanoplastiques, ce sont les plastiques qui sont le résultat de la dégradation de ces plus gros déchets, donc de ces macro-plastiques. Cette dégradation, elle se fait de plusieurs façons. Ça peut être soit par l'eau, par le soleil, donc qui fait que les déchets deviennent de plus en plus petits. Donc ça crée des particules qui sont de plus en plus petites. Et en fait, mécaniquement, comme elles sont de plus en plus petites, elles peuvent être ingérées par un plus grand nombre d'animaux, voire même les plus petits animaux. Ce qui pose des questions quant à leur toxicité, puisque aujourd'hui elle reste assez mal connue. Pourquoi elle est mal connue? Tout simplement parce que on a une très grande variété de plastiques. Donc quand on parle des plastiques en général, on ne s'intéresse pas seulement à un type de polluant, mais en fait à toute une famille dont la toxicité va dépendre de la taille, mais aussi de la forme et parfois même de la couleur.
Si je schématise ce que vous venez de dire, le continent de plastique, c'est évidemment dramatique, mais ça ne peut affecter que les espèces qui sont en surface et puis les espèces qui sont suffisamment grosses pour pouvoir ingérer des plastiques, alors que ces microplastiques, ils se diffusent absolument partout et dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Donc ces microplastiques, du fait de leur densité, par exemple, il y a des polymères de plastique qui sont plus denses que l'eau. Donc dans ces cas-là, ils peuvent couler directement au fond de l'océan, donc atteindre d'autres animaux qui vivent dans le fond de l'océan. Mais ils peuvent également couler par d'autres moyens, par exemple parce que des bactéries vont s'accrocher sur ces plastiques-là, et du coup, du fait qu'il y ait plein de choses qui s'accrochent dessus, ils vont couler également. Donc ainsi, sur leur trajet, ils vont pouvoir être consommés par de nombreuses espèces, et donc on va avoir une rencontre par toute la chaîne trophique de ces microplastiques qui vont pouvoir être consommés, donc être répercutés sur chacune espèce de la chaîne trophique.
Vous qui êtes doctorant sur ce sujet et qui travaillez au quotidien sur les derniers articles de recherche qu'on a là-dessus, alors qu'on vit dans une société qui mesure tout à la décimale près, est-ce qu'on a la moindre idée de combien de microplastiques sont dans l'océan en ce moment ?
Donc il y a des estimations qui sont faites, c'est assez compliqué parce que en fonction d'où est fait le lieu de prélèvement, de la saison et puis de la profondeur aussi, on n'a pas les mêmes quantités de microplastiques, mais aujourd'hui on estime que à la surface, il y a un nombre qui s'exprime en trillions, donc c'est-à-dire des millions de milliards de particules qui flottent. Donc ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, on estime qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qui sont au fond des océans.
Pour bien comprendre en quoi c'est dramatique, il existe des milliers de plastiques différents qui partagent un triste point commun, celui d'être vecteurs d'autres polluants chimiques issus de leur processus de fabrication ou de leur utilisation par les humains. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, quand on synthétise, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, un pot de yaourt ou un sachet en plastique, on ne va pas dedans mettre que du polyéthylène, pour en citer un qui est plutôt connu, mais on va aussi ajouter d'autres additifs dans sa synthèse, donc pour colorer le plastique, ou bien le rendre plus souple, ou bien moduler sa viscosité. Et en fait, ces molécules qu'on qualifie de polluants, on les qualifie ainsi parce que pour certaines, on sait désormais qu'il y a une toxicité. On a étudié leur toxicité avec des animaux en laboratoire, mais la plupart qui ne sont pas du tout étudiés. Donc en fait, ce qu'on fait quand on relargue des déchets plastiques dans l'océan, c'est qu'on relargue des centaines de substances qui ont été ajoutées pendant la synthèse et dont on n'a jamais étudié les effets sur la biodiversité. Il y a aussi des hypothèses selon lesquelles certains polymères seraient capables d'accumuler des polluants qui sont déjà présents dans l'eau. Donc en fait, l'accumulation de ces polluants, ça agirait comme un petit concentrateur. Et ce qui fait qu'une fois ingéré, l'animal qui le consomme serait d'autant plus atteint par la toxicité des autres polluants présents dans le milieu ambiant.
Donc des petites bombes à retardement. Et ça m'évoque une double question pour conclure. L'image d'une tortue avec une paille dans le nez, ça a fait le tour du monde et ça raconte bien, évidemment, comment est-ce que la dispersion physique des plastiques, c'est une menace pour le vivant. Mais vous venez de nous le dire, les plastiques sont des polluants aux formes multiples. Et donc, quels impacts directs ou indirects ont-ils sur la biodiversité océanique ? Et pour se quitter sur une bonne nouvelle, comment est-ce qu'on peut espérer les limiter ?
Donc cette image de la tortue avec la paille dans le nez, c'est vraiment emblématique du combat qui est en train d'être mené de plusieurs façons dans le monde entier sur essayer de réduire la pollution plastique. Donc il y a ces macro-déchets qui peuvent être dangereux, mais également les déchets plus petits, du fait de leur petite taille. Donc pour les microplastiques, on commence à avoir un peu une idée, puisque les microplastiques sont assez facilement capturables soit par des filets, soit par des filtres, quand on fait des campagnes océanographiques, ou même en laboratoire, quand on veut les extraire de l'estomac, par exemple, d'un animal. Et donc on commence un peu à comprendre le mécanisme de toxicité qu'ils pourraient avoir. Pour les nanoplastiques, on a beaucoup moins d'idées parce que c'est des particules qui sont beaucoup plus difficiles à manipuler en laboratoire du fait de leur toute petite taille. Mais en tout cas, une des hypothèses majeures qu'on a aujourd'hui, c'est en fait si le plus petit des animaux qui est à la base de la chaîne alimentaire consomme par exemple des nanoplastiques, donc du plancton, qu'il est lui-même ensuite consommé par d'autres animaux etc. le long de la chaîne alimentaire, on va avoir un processus de biomagnification, donc c'est-à-dire que chaque animal qui a consommé un autre animal qui était plus proche dans la chaîne alimentaire, donc va se retrouver à accumuler de plus en plus de plastique, et donc du coup potentiellement, les animaux qui sont en bout de chaîne vont accumuler des quantités de plastique qui sont énormes.
Comme tout au bout de cette chaîne trophique, il y a nous, puisque nous mangeons certains poissons, ça veut dire qu'en fait, ça risque de nous affecter nous directement.
Oui, potentiellement. Donc il y a un risque pour la biodiversité, mais également pour l'humain s'il consomme ces espèces-là. Ensuite, un autre point qui est assez important sur la toxicité, donc il y a potentiellement la toxicité du polymère en lui-même, des additifs, mais également d'autres pistes qui sont actuellement en cours d'étude. Donc par exemple, on pourrait penser, donc comme les plastiques pourraient naviguer avec les courants océaniques, donc peut-être que des espèces comme des arthropodes ou certains annélides, qui sont donc des vers marins, ou des mollusques, pourraient s'accrocher à ces particules de plastique, naviguer le long des courants avec ces particules, et se retrouver à un endroit complètement différent de là où ils étaient à l'origine. Et ça, ça peut poser problème, parce qu'en fait, cette espèce, on la transfère d'un milieu A à un milieu B, donc potentiellement dans le milieu B, je sais pas, elle pourrait ne pas avoir de prédateurs, et donc devenir une espèce qu'on qualifie de invasive, ce qui pourrait avoir un gros risque pour la biodiversité du point B. Il y a aussi d'autres particules qui sont encore plus petites que des mollusques ou des arthropodes, qui sont les bactéries. Donc les bactéries pourraient également s'accrocher sur ces plastiques et en fait, par le même mécanisme, aussi diffuser d'un milieu A à un milieu B. Et donc de la même façon, pourraient se propager dans une autre niche écologique. Et donc on va essayer de terminer sur quelque chose de plus positif. Donc cette année est prévue normalement la signature du traité plastique des Nations Unies, qui a pour but de réduire les émissions de plastique dans l'environnement. Donc ça, c'est par plusieurs moyens, à la fois par la réduction de plastique à usage unique, mais également pour faire adopter à chaque pays des moyens de recyclage qui soient plus adaptés et plus compétents que ce qui est fait actuellement. Et donc ce traité prévoit donc à la fois un accord entre tous les pays signataires, mais également des moyens qui soient adaptés à chaque pays pour qu'ils puissent réellement mettre en place ce que veut ce traité.
Au tout début de l'épisode, vous nous avez bien montré comment est-ce que le recyclage était une mystification, puisqu'en fait, il n'y a que 9% de ces fameux déchets plastiques qui sont réellement recyclés. Vous venez de parler des plastiques à usage unique. Ça, au fond, c'est vraiment un contresens d'un point de vue écologique. J'ose espérer qu'il y en a très peu qui finissent dans les océans.
Malheureusement, il y en a beaucoup trop. On estime aujourd'hui que dans tous les déchets qui sont retrouvés dans l'océan, il y a environ 20% qui sont des plastiques à usage unique, ce qui est un chiffre beaucoup trop grand, puisque on sait que c'est quelque chose qu'on peut vraiment éviter en réduisant l'usage de ces plastiques à usage unique.
Mais espérons que ce texte des Nations Unies permette de réduire le plastique qui se retrouve dans l'océan. Merci beaucoup, Valentin.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Valentin Dattling, doctorant au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que Nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que Nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que Nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.